Bonjour, vous êtes sur CFM avec le cercle de lecture de Confluence. Autour de moi,
Jeannette,
Bernard,
Jean,
Monique.
Et donc cette année, le festival Lettres d'automne aura lieu du 9 novembre au 2 décembre. L'invité d'honneur sera Christian Garcin. Comme Christian Garcin et Tanguy Viel sont en train d'accomplir un tour de l'hémisphère nord en cargo, en train, en voiture, nous avons eu l'idée de découvrir l'œuvre de Tanguy Viel et nous échangeons autour de son dernier livre, article 353 du Code pénal, paru en 2017 aux éditions de Minuit. Le roman a été diversement apprécié par les membres du cercle de lecture et les avis ont été partagés. Certains l'ont aimé et d'autres pas. Jeannette, veux-tu nous présenter Tanguy Viel ?
Alors, Tanguy Viel, c'est un breton, même s'il vit aujourd'hui en Sologne. Je pense qu'on est, quand on est breton, on l'est jusqu'à la fin. Il est né à Brest en 1973 et il a passé son enfance en Bretagne. Il y est resté jusqu'environ l'âge de 16 ans. De 7 ans, excusez-moi. Il a toujours eu envie d'écrire, c'est ce qu'il dit dans les interviews qu'on peut lire de lui. Et dans les années 2003-2004, il a été pensionnaire de la Villa Médicis et il a publié pas mal de livres, environ un livre tous les 4 ans, encore qu'au début de sa carrière, la cadence était un petit peu plus rapprochée. Alors, parmi ses livres... L'absolue perfection du crime en 2001, Paris-Brest en 2009, la disparition de Jim Sullivan en 2013. Pour l'article 353 du Code pénal, il a obtenu le grand prix des lecteurs de RTL Lire. Voilà un peu qui est Tanguy Viel.
Voilà, et à propos de ce livre, Tanguy Viel a déclaré « Pour moi, il s'agit d'une envie de recroire dans la fiction ». Au point de raconter une histoire, de jouer uniquement sur les registres de la construction interne, de fabriquer des personnages, des décors, une intrigue, des émotions, des paysages. Évoquons d'abord quelques éléments de l'histoire. D'abord l'intrigue. C'est le récit rétrospectif relaté à la première personne d'un homme qui en a jeté un autre à la mer lors d'une partie de pêche. Et qui, le lendemain, est déféré devant un juge d'instruction qui l'interroge sur son crime. La composition, le crime est évoqué dans les 5 premières pages. L'interrogatoire couvre les 3 parties du roman et se dénoue d'une façon dont on ne parlera pas. Disons simplement que ce dénouement nous a fait beaucoup parler et qu'il donne son titre au livre. Les lieux, il y en a 2, essentiellement. Une presqu'île dans la rade de Brest, à 12 km de la ville. Le bureau du juge d'instruction au palais de justice de Brest.
Et d'ailleurs, cette presqu'île, on l'a cherchée. On n'en a pas trouvé, on s'est dit que peut-être il imaginait que c'était l'île Longue qui reliait à la côte, mais il dit, Tanguy Viel, que même s'il connaît bien la Bretagne, pour y avoir vécu, il n'aurait pas pu écrire son livre face à la mer, parce que s'il avait été face à la mer, il aurait regardé la mer, et c'est tout ce qu'il aurait pu faire. Et donc, c'est la rade de Brest, disons que c'est la rade de Brest.
Mmh. Alors finissons avec les personnages, donc, cette brève présentation du roman. Le narrateur, déjà, Martial Kermer, ancien ouvrier spécialisé à l'arsenal de Brest, 57 ans au moment de son arrestation, et il a été licencié économique au début des années 1990. Un promoteur, Antoine Lazenec, venu d'on ne sait où, dans les années 90, pour édifier une résidence de luxe sur 2 hectares de la presqu'île. C'est lui que Kermer va jeter à la mer. Le maire de la commune implantée sur la presqu'île, Martial Le Goff. Erwan Kermer, le fils du narrateur, 11 ans au début de l'histoire, 17 ans à l'arrestation de son père. L'ex-femme du narrateur, France, qu'il a quittée avant que l'histoire ne commence. Et le destinataire de cette histoire, le juge d'instruction, 30 ans, il a un fils de 7 ans et il a été en poste précédemment dans le Midi. Voilà donc pour les éléments de l'histoire. On pourrait peut-être écouter, faire une première pause.
Alors, peut-être, oui. Alors, on vous a choisi en Bretagne, Miossec, et une très belle chanson qui, un peu comme le livre, amène à réfléchir sur la vie et sur le temps qui passe.
Et on l'a comme pas vécu, ou peut-être pas assez, pas comme on aurait dû. Peut-on encore imaginer de nouvelles étendues, des rivières à traverser et même des fleuves en crue? C'est pas fini, on vient à peine de commencer, c'est pas fini, on peut encore se retourner. S'est-on ramassé, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il a bien pu clocher à un moment, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait peut-être dû prendre le temps de souffler, de profiter de la vue. C'est pas fini, on vient à peine de commencer, c'est pas fini. Se retourner, c'est pas fini. On peut encore se réparer. La vie, elle a passé et on l'a comme pas bien vu. Les années ont filé beaucoup plus vite que prévu. C'est pas fini. C'est pas fini, on peut encore se retourner, c'est pas fini, on peut encore se raccrocher à la poésie.
C'est pas fini, on vient à peine de commencer. Ça, c'était le titre de la chanson de Miossec, mais nous aussi, on continue.
Oui, je voulais ajouter à propos de la construction du livre que finalement, c'est comme dans une tragédie classique, il y a la règle des trois unités. On est dans un seul lieu, le bureau du juge d'instruction. Il y a eu une action, le meurtre du promoteur, et ça se passe en un seul jour. Donc, il y a vraiment une espèce de huis clos dans lequel tout va se dérouler, avec une voix. Oui, et de temps en temps, la voix du juge qui relance l'interrogatoire.
Oui, alors je voudrais préciser que ça se passe seulement en quelques heures, parce que le juge avait demandé à l'inculpé de raconter l'histoire en ligne droite des faits. Donc ça c'est très important, on a toute une série de faits que l'accusé va penser être la cause de son action, alors que rien, lui, ne le disposait à être un assassin. La ligne droite des faits. Recommandation du juge.
D'ailleurs, à un moment donné, le juge tape sur la table au point d'en balancer tous ses dossiers en disant « Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris ? Bon Dieu, je crois, bon Dieu, Kermer, qu'est-ce qui vous a pris ?»
Alors, c'est peut-être à ce moment-là qu'on se rend compte que le juge se fait son idée, déjà. Et a... a commencé à construire son point de vue et la réponse, enfin, ce qui va être la phrase de la fin.
L'histoire, c'est aussi l'arrivée de la modernité dans cette presqu'île bretonne, dans cette société rurale, l'arrivée de la modernité incarnée par ce promoteur, Lansnec, et une partie de la société locale, le maire, le goff, et puis bien sûr Martial Kermer, notre héros, se laisse subjuguer par l'arrivée de cette modernité, avant de réagir, chacun à sa façon, très tardivement pour Kermer, beaucoup plus rapidement pour son fils. On sera amené sans doute à parler d'Erwan Kermer, le fils. Le fils est vraiment celui qui, dès qu'il a l'âge de raison, se dresse contre cette arrivée de la modernité, même si la modernité essaye de le pervertir lui aussi. Mais ça, je n'en parle pas maintenant, nous en parlerons tout à l'heure.
Il faut aussi préciser que Lansnec arrive dans un moment de crise pour cette rade de Brest, au moment où une partie importante des ouvriers sont licenciés.
Notamment l'arsenal, c'est
oui,
ça,
la
réaction des effectifs de l'arsenal.
Voilà, ce qui peut expliquer que Lansnec est vu comme un sauveur, une providence, quelqu'un qui va tirer les habitants de leur marasme.
Il va donner de l'emploi. Mais je me disais aussi que c'était non seulement l'intrusion de la modernité dans la ruralité, mais également dans un village qui, traditionnellement, a toujours voté à gauche, du monde de l'argent. Et laisser arriver ce monde de l'argent, c'est quelque chose dont les habitants profitent, enfin, espèrent profiter, mais dont ils se sentent coupables. Ils ne s'en vendent pas en quelque sorte, et c'est ce qui va permettre de durer. Ils n'ont pas les codes du fric, on pourrait dire, hein, et donc c'est aussi pour ça qu'ils vont se faire gruger.
Il y a aussi un fait qui est important, c'est quand ils voient débouler ce type-là, qu'ils ne reconnaissent pas tout de suite, ils disent voilà un homme qui avait un projet, et nous dans notre village nous n'avions plus de projet, ils étaient tous à le faire de projet, ce projet de construire, de faire des choses miraculeuses, à mon avis c'est très important dans la prise de position, le projet qui à eux manquait complètement.
Effectivement, peut-être plus ce projet que le fait qu'il apporte l'emploi ou qu'il apporte... C'est effectivement ça qui les a séduits. Alors, l'arrivée de la modernité, ça se fait pas n'importe comment, puisque c'est la municipalité elle-même qui vend le terrain sur lequel le promoteur va construire. Donc c'est vraiment symbolique, c'est pas l'un d'entre eux, un particulier, qui cède, c'est la commune elle-même, en la personne du maire, qui cède au promoteur. Et ça aura évidemment des répercussions très importantes dans la façon dont cette petite communauté se trouvera subjuguée par le promoteur.
Alors, est-ce qu'on peut préciser que le promoteur, lorsqu'il arrive, veut acheter ce qu'on appelle le terrain, le château qui croule depuis des siècles, mais qu'on appelle néanmoins le château, et un grand terrain
municipal
qui était à la mairie, le tout appartenant à la mairie, mais sur lequel il y avait la maison où habitait Kermer. Et Kermer commence à être un peu inquiet parce qu'il se dit que va-t-il devenir de cette location, voilà. Donc il risque aussi d'être expulsé.
Et oui, effectivement, dans une discussion avec le maire, je crois, Lansnec parle d'une petite servitude. Et la servitude, c'est en effet la personne de Kermer qui vit sur... dans la maison gardienne de la propriété.
Mais le mot n'est pas innocent, parce que ça le choque, parce que derrière servitude, il comprend esclavage, enfin, il se demande je crois que c'est une des premières fois où justement Kermer va se sentir bousculé, va se sentir méprisé sans doute aussi. Bon, alors je ne sais pas si c'est le moment, moi je voudrais poser un problème de fond. Par rapport à ce que, on peut attendre, moi, ce que je voudrais attendre d'un livre, il me semble que les problèmes de société, le problème de ruralité, modernité, etc., si on veut les étudier vraiment, il faut lire un livre de sociologie ou un livre d'histoire. Enfin, il me semble que c'est pas le but d'un roman de régler et de, comment dire, oui, de régler des problèmes de, qui concernent la société et d'apporter des solutions, enfin, d'inciter le lecteur à trouver des solutions à ce genre de, à ce genre de problèmes. Mais c'est mon point de vue, enfin, c'est moi ce que j'ai, enfin, le livre m'aide, si vous voulez, à comprendre ce que j'aime dans un roman.
Oui, et moi c'est un peu l'inverse. Quand je lis un livre, j'ai toujours, j'attends qu'il m'apprenne des choses, et plus que ça.
Oui, mais bien
j'espère
sûr,
toujours que quand j'aurai fini de lire le livre, ça m'aura un peu changé.
Oui, mais moi aussi, mais pas par ces, par ces moyens-là, pas, pas en évoquant des problèmes qui pourraient être beaucoup plus approfondis dans un livre, je vous dis, de sociologie, ou un livre d'histoire, ou un livre de géographie.
Mais là, c'est sec, la sociologie. Documentaire. C'est uniquement
Chers
rationnel.
Collègues, je vous rappelle, alors, nous, on connaît le roman, mais nos auditeurs ne savent absolument pas ce qui va se passer. Donc, on devrait peut-être évoluer dans la ligne
oui,
droite.
Oui, non, mais c'est moi qui égare la discussion.
Et donc, disons que... Ce projet donc, immobilier ne prendra jamais forme. Le château sera détruit.
Il commencera.
Les 2 hectares seront, je crois, remués par des bulldozers et tout s'arrêtera là. Voilà.
Avec de temps en temps une pelleteuse qui passe, mais voilà, rien de plus. Oui.
Voilà, tant et si bien qu'au bout de 6 ans... Eh bien, ceux qui ont investi l'ont fait à fond.
Il faut peut-être dire aussi qu'entre-temps, il aura quand même subjugué... Un certain nombre des personnes, notamment de l'arsenal, mais pas seulement, enfin, de cette société rurale, qui auront acheté sur plan les appartements du futur projet. Quand même.
Voilà.
Donc, c'est quand même un élément important qu'il faut
rappeler. Oui, bien sûr. Et donc, ils auront investi à fonds perdu.
Ils seront escroqués.
Oui, escroqués.
D'ailleurs, comme quelqu'un l'avait fait remarquer lors de la séance, cet escroc est arrivé là, non pas par hasard, il savait que les ouvriers... qui travaillait à l'arsenal, avait pris quand même une belle somme.
Il l'apprend au cours du récit.
Oui, mais enfin, chaque personne, enfin, par exemple, Kermer avait à l'époque 500 000 francs, ce qui représente une somme suffisante
400 000 francs.
Pour acheter le bateau de ses rêves. Voilà, un autre projet qui, lui, n'a pas eu lieu. Ça fait 2 projets qui sont tombés à l'eau comme en Bretagne.
Et on retombe un peu sur cette histoire dont on parlait tout à l'heure, là, de se sentir coupable d'accorder de l'importance à l'argent. Personne ne sait qui a investi. C'est vraiment l'omerta. Oui. Kermer lui-même ne le dit pas à son fils, qui va le comprendre, mais on ne sait pas qui a investi dans le village.
Chacun a honte de l'avoir fait.
Ils vont avoir encore plus honte de s'être fait avoir.
Oui. Et en fait, Kermer, bon... Entre autres raisons, agit peut-être aussi comme un justicier, là. En balançant la snec à l'eau, il se rend justice et il leur rend justice.
Oui, mais enfin, ça a pris du temps.
7 ans.
C'est le rédempteur. C'est le rédempteur. Mais je pense que son fils l'est encore davantage. Encore une fois, le fils résiste davantage. Bon, l'action qu'il commet, qu'on ne décrira pas, est à sa mesure. C'est celle d'un adolescent.
Oui, on peut la décrire.
Et d'une certaine façon, il se dresse contre le promoteur avant même son père.
Oui.
Avant même son père. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est quand même d'abord une histoire qui se passe dans le contexte de cette presqu'île, le paysage qui entoure la rade de Brest, qui est quand même bien évoqué. Tu parlais des mouettes tout à l'heure, il n'y a pas que les mouettes, genre.
Oui.
Il y a un certain nombre de traits assez allusifs, mais je trouve bien vus, qui dressent le décor, quand même.
On peut les rassurer, on ne parle pas de Bigouden, quand même.
Non, d'ailleurs, ce n'est pas le pays Bigoudin.
Mais il me semble qu'il y a quand même, au début, enfin, moi, ça m'a un peu gêné, cette insistance à, justement, ancrer l'histoire dans un paysage. Il faut qu'on comprenne dès le début qu'on est bien en Bretagne, qu'on est au bord de la mer, qu'il y a des mouettes. Oui. Et donc, les mouettes reviennent, il me semble, de manière un peu exagérée au début.
Ah bon bon.
Mais notre prise de position qui diffère, en fait, porte sur le fait... que le Kermer va se défendre d'une façon dont nous, on ne comprend pas pourquoi il se défend de cette façon-là. Il va utiliser, pendant sa défense, tout l'exposé de la droite ligne des faits, il va parler avec un mode tellement exhaustive d'un tas de choses, comme par exemple les mouettes, les infirmières, un rideau de pluie qui est indéchirable. Moi, je ne connais personne qui utilise... Il utilise des termes qui, pour moi, ne sont absolument pas naturels à ce personnage. Et l'un de nos collègues disait, c'est un taiseux qui, pendant 6 heures, n'arrête pas de parler et qui va utiliser des phrases qui n'ont pratiquement rien à voir avec, disons, l'action même qu'il a portée, enfin, le mode... Son devenir de... Voilà, ça, c'est là encore, on diffère complètement. Oui.
Moi, je pense qu'il ne cherche pas à se défendre.
Non, il ne cherche pas à se défendre.
Il ne cherche pas à se défendre.
Il raconte des tas de choses, mais il ne cherche pas à se défendre.
Enfin, il est dans le rôle de celui qui s'accuse lui-même.
Absolument,
enfin,
oui.
Il assume totalement ce qu'il a fait.
Oui, hein, oui. Oui.
Mais, alors, je suis d'accord avec toi, Monique, avec vous. il me semble que ce qu'on appelle l'énonciation, c'est-à-dire la manière dont les choses sont dites, par rapport à celui qui parle, n'est pas adapté. Manifestement, l'auteur, Tanguy Viel, c'est quelqu'un qui sait bien écrire et qui veut le montrer qu'il sait bien écrire. Et il me semble qu'il y a un décalage entre donc, la parole de Kermer et ce qu'on lui fait dire. Quoi.
Alors, peut-être quand même pour essayer de t'apporter...
La contradiction.
La contradiction. d'abord, ce taiseux qui s'est tu si longtemps, qui n'a parlé ni à ses voisins, ni à son fils de ce qui lui était arrivé, ni à sa femme, mais sa femme, il l'avait déjà quittée, je crois. Tout à coup, une fois qu'il a accompli ce geste, on pourrait dire qu'il retrouve la parole.
Oui, mais il pourrait retrouver une parole qui est vraiment impressionne le lecteur.
Non, alors moi, je voudrais intervenir là-dessus. Au fond de moi, il y a évidemment un prof de français qui sommeille, et c'est vrai que j'ai été sensible au fait que l'énonciation de Kermer n'est pas vraiment adaptée à son statut social, à son statut social. Mais je suis passée au-delà parce que vraiment, j'ai été touchée par la manière dont il décrit comment, progressivement, s'est fait jour dans son esprit tout ce qu'il avait raté dans sa vie. C'est-à-dire, et qu'il s'agisse de son rapport avec sa femme, de son rapport avec son fils, voilà. Et progressif, il élucide, lui aussi, il cherche à élucider ce qui a pu l'amener à balancer par-dessus bord le fameux Lasnek. Et c'est quelque chose qui se fait jour très, très, très progressivement. Même peut-être qu'il arrive à l'élucider uniquement en le disant devant le juge, parce qu'il avait presque du mal à se le dire à lui. Et alors, du coup, ça, pour moi, ça emportait le morceau. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne s'attend pas à ce qu'un ouvrier de l'arsenal de Brest emploie des métaphores aussi belles, parce que c'est vraiment, le style est très, très, très beau. Mais elles y sont, les métaphores, et elles font comprendre les choses avec le cœur, enfin.
Ça peut marcher pour certains lecteurs, pas pour d'autres.
Et aussi, sujet de ces métaphores, quand même, certaines sont vraiment, c'est vrai, littéraires, mais il y en a d'autres qui collent au personnage, je crois.
Oui, qui sont naïves.
Par exemple, la voix du juge, il parle de la voix du juge. Il avait sa voix qui avait l'air de me ravager comme un pesticide qu'on aurait lancé sur une coccinelle. Ça n'a rien.
Oui.
Ça n'a rien d'extrêmement littéraire.
Mais
le juge ne parlait pas, pratiquement pas.
L'argent de Le Goff, l'argent de la commune que Le Goff a investi dans le projet immobilier, ça lui faisait comme une ceinture d'explosifs bien calée à la taille.
Voilà. Alors moi, derrière ces phrases, je sens l'auteur qui dit « Regardez comme je sais bien écrire ».
Oui, tu l'as perçu comme ça.
Je le vois comme ça.
Moi, comme j'ai vu son visage dans certaines interviews, ce type a l'air vraiment tellement sympathique qu'on peut pas le soupçonner.
Ça ne me complète pas.
Pas le soupçonner de vouloir nous épater.
Mais si, c'est évident.
Ah non, moi, je ne l'ai pas du tout perçu comme ça, Jean.
Oui, mais là, on n'a pas encore énoncé les faits qui le conduisent à son geste.
Ah ben, à chaque lecteur de lire le roman, hein. Je voudrais peut-être lire une description de la Bretagne, justement, l'évocation de la Bretagne, dans une évocation que je trouve très réussie. Dans cette région, déjà, on a vite fait de se perdre à cause de l'épaisseur des nuages, ou je ne sais pas, les arbres qui font comme une fausse mangrove et ont l'air de tomber dans la mer. Un jour, je vous amènerai. Il y a des endroits, ici, au fond de la presqu'île, qui ressemblent à l'Amérique du Sud. Et alors, on sent, ici, quelquefois, c'est pareil. Et alors, on sent qu'on peut y perdre son âme. En tout cas, qu'elle glisse sans mal dans les branches des arbres, dans le camaïeu de verre qui borde l'eau et les murets de pierre. Qu'elle est prête à se perdre dans l'étendue plane et les dunes pierreuses qui hésitent tout finir. Il faut comprendre cela, j'ai dit au juge. Passé le goulet d'étranglement, ce n'est plus le large océan, ni la force du vent qui vous époumonne, mais presque l'eau stagnante, l'odeur de vase qu'on trouve dans les rivières. Et voilà à quoi ça ressemble, le fond d'une rade. En un sens, la rade, c'est l'océan, moins l'océan.
Alors, je n'ai pas après cette description de paysage. Peut-être qu'on pourrait s'offrir encore un petit peu de musique. Et on vous propose une chanson de Jacques Dutronc, Le Petit Jardin, où il est question d'un promoteur impitoyable.
Est-ce que je peux faire une remarque par rapport à ce que tu viens de lire, Françoise ? Pour moi, là, Kermeur, il s'exprime comme Chateaubriand.
Oui, mais les phrases sont construites maladroitement.
Non.
Même si
non,
les métaphores.
Non, les phrases, tout est.
Ah,
c'est du Chateaubriand, tout à fait. Chateaubriand parlant de la Bretagne.
Il y a une naïveté dans la construction des phrases qui colle assez bien avec le personnage.
Moi,
j'ai
les
ressenti
avis
ça au début. Genre, plus le texte avançait, plus je trouvais qu'il y avait cohérence.
Moi, ça m'a beaucoup gêné.
Entre la façon
moi, je trouve que c'est des paroles d'un homme qui est amoureux de son pays.
Oui, et qu'elles sont.
Oui, mais. Enfin, me semble qu'une expression, ça pourrait être exprimé de la même, le même sentiment très fort pourrait être exprimé d'une manière qui soit adaptée et qui touche davantage le lecteur. Enfin, c'est mon point de vue. Mm-hmm.
Mais moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça, c'est une faute littéraire, entre guillemets, mais moi, ça ne m'a pas enlevé le plaisir du tout. Voilà.
Mais parce que, bon, tout dépend aussi, est-ce qu'on lit pour l'histoire?
Ah oui,
est-ce qu'on
oui,
ne lit que pour l'histoire?
Non.
Il n'y a pas que
l'histoire.
Voilà,
c'est ça.
Oui.
Bien,
allez,
écoutez,
le promoteur.
Bon,
monsieur le promoteur.
Continue. Nous allons écouter monsieur le promoteur.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin. Avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce. Monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin. Avec un homme qui faisait son jardin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur.
Tanguy Vielle déclare jusqu'alors, je faisais plutôt parler des enfants, des fils surtout. Là, je me suis intéressée à la notion de paternité, de transmission, une certaine idée, une certaine idée de ce que c'était qu'être père, mais un père qui n'a plus de prise sur sa vie, qui n'a pas plus de prise sur sa vie qu'un enfant. Et peut-être cela pourrait nous inviter à parler du personnage du fils, Erwan, et du thème de la paternité. Bernard ?
Oui, Erwan parle beaucoup moins que son père, il ne parle pratiquement pas dans le roman. Toutefois, c'est un personnage intéressant. Il a 11 ans au début de l'histoire, 17 lorsque l'histoire se termine. Lui aussi, à 11 ans, est subjugué par les manœuvres du promoteur, mais un enfant de 11 ans n'a pas les moyens de les analyser et de se défendre. Bon, il partage la tribune officielle dans les stades de foot. C'est un jeune passionné par le foot, un jeune supporter. Comment ne serait-on pas subjugué par de telles manœuvres? Mais assez vite, on sent qu'il résiste. Alors ça se traduit par une opposition à son père. Alors ça, c'est ce dont, dont on vient de parler à l'instant. Une opposition croissante, même plus que ça. Il s'éloigne de son père. Il va jusqu'à commettre un crime par procuration. Alors, ce n'est pas contre le promoteur lui-même que s'exerce sa violence, c'est contre le bateau du promoteur. Et puis, par extension, par les bateaux du port, une façon pour lui de montrer qu'il y a le promoteur et il y a tous ceux qui se sont laissés corrompre, ou du moins subjugués, par le promoteur, tous ceux qui ont finalement acheté des appartements dans ce projet et qui se sont fait escroquer. Bon. Et pour ça, le très jeune adolescent écope de 2 ans de prison. Au moment où le père est arrêté, le fils est en prison. Il purge cette peine longue, qu'on peut juger très sévèrement puni pour ce qu'il a fait. Alors évidemment, on le voit parce qu'on connaît le dessous des cartes. Mais dans une société où un adolescent commet un tel acte de violence, surtout dans une société très attachée à la mer et au bateau, bon, ça a été puni durement. Voilà. Donc, le personnage d'Erwan, moi, me paraît un personnage intéressant, et les relations d'Erwan avec son père, plus que du père avec son fils, d'ailleurs, m'ont intéressé dans le fil de cette histoire.
Justement, par rapport à cette relation père-fils, il y a un épisode qui est, il me semble, très symbolique. C'est l'épisode de la grande roue. Je ne sais pas si quelqu'un peut préciser de quoi il s'agit. Si je me souviens bien, donc le fils et le père vont dans une sorte de
fête foraine
oui. Et il y a une grande roue. Le fils, alors comment ça marche exactement? Le fils monte.
Quand il est en bas, voilà. il n'a pas le temps de, le temps de descendre alors voilà. Que son père est descendu.
Bref, la grande roue va repartir, le fils étant installé, et le père reste accroché, suspendu dans le vide. Pendant un long moment, et à ce moment-là, c'est le fils qui va le soutenir, le tenir par les poignets, jusqu'à ce qu'enfin on s'aperçoive qu'il y avait ce problème et qu'on fasse faire marche arrière à la roue pour que le père redescende.
Et là aussi, Tanguy Viel se sert de cet épisode de la grande roue un peu comme d'une métaphore, pour dire qu'on aimerait pouvoir de temps en temps, comme la grande roue qui a fait marche arrière, pour permettre à Kermer de se sauver, on aimerait bien dans la vie pouvoir faire marche arrière. Mais Laznek est à l'eau, son corps a été retrouvé sans vie, et on ne peut pas faire marche arrière.
Justement, à propos de Laznek, moi, j'ai regretté que le personnage soit pas, mais c'était difficile évidemment, mais soit pas davantage fouillé, parce que à un moment donné, il y a un passage intéressant où Kermer évoque Laznek, et ce Laznek, en fait, c'est un salaud, enfin, c'est l'incarnation du mal. Mais il y a ces remarques, et j'aurais, enfin. moi, ça m'aurait intéressé qu'on développe davantage. Hein. Il emmène donc Erwan, le fils, avec lui, etc. Et il dit, le Kermer dit, est-ce que vous croyez qu'il faisait ça pour se racheter? Je veux dire que mon fric était depuis longtemps parti en fumée et qu'alors... Non, même pas. Parce que le problème, c'est que même un gars mauvais, même la pire des crapules, il y a des moments où elle n'est pas une crapule, des moments où elle ne pense pas à mal. Alors ça, c'est une chose qui, moi, m'intéresse beaucoup en tant que lecteur, c'est que le personnage ne soit pas ou tout bon ou tout méchant, et qu'on se rende compte que bon, le bien et le mal ne sont pas répartis comme ça de manière catégorique.
Et moi, c'est aussi un aspect qui m'a beaucoup intéressé. Et un petit peu plus loin dans, je crois, le passage que tu dis, ouais. Il dit « Les gens comme moi, dit Kermer, ouais. Ils ont besoin de logique. Voilà. Et la logique voudrait qu'un gars méchant soit méchant tout le temps, ouais. Pas seulement... un tiers du temps. Et alors je me disais, ces gens de ce village-là, qui sont souvent devant la télé, probablement, avec ces films américains, manichéens, bon ben voilà, ils sont dans cette logique, y a le bien, il y a le mal, et puis si tout va bien, le méchant se rachète à la fin, enfin voilà.
Et tu as raison de parler de films américains, parce qu'il est question à un moment d'atmosphère de western.
Oui.
C'est-à-dire que le promoteur, il arrive comme un personnage qu'on voit arriver dans un film de cow-boy. Hein.
Et alors je trouve que la réflexion sur le mal va plus loin, et justement, moi elle m'est adressée directement. On ne révèle rien de l'histoire en disant que ce fameux article 353, c'est un article qui parle de l'intime conviction. Mmh. Et j'ai vraiment eu l'impression que nous, les lecteurs, on avait été mis en quelque sorte en position de juré. Les faits que déballe Kermer devant le juge, il nous les déballe devant nous, lecteurs, et il faut, nous, qu'on se fasse notre intime conviction. Qui est le méchant dans cette histoire? Est-ce que c'est Kermer qui a effectivement tué? Est-ce que c'est Lasnek qui a tué symboliquement tout un tas de gens qu'il a ruinés? Et voilà. Mais si on... À supposer qu'on dise le méchant, c'est Lasnek, et puis il a bien eu tout ce qu'il méritait, on se retrouve quand même devant le problème, et alors ça n'existe pas, le mal, objectivement, il a quand même été tué, même s'il y avait 36 raisons, circonstances atténuantes, en fait, tout ce qu'on peut s'imaginer. Voilà, je trouve que ça nous met face à ça. Oui. Est-ce qu'il y a une objectivité? Voilà.
Mais il me semble que le jugement du lecteur est orienté, enfin, que forcément, on va avoir une espèce d'indulgence pour... ce qu'a fait Kermer.
Oui, mais il y a un fait, c'est-à-dire que là, ça dure très très longtemps, mais il y a quand même, il le tue parce qu'il n'en pouvait plus, mais il le tue aussi quelque part, il dit pour arrêter le mal. C'est pas pour le mal qu'il a fait, c'est pour le mal qu'il pourrait encore provoquer. Il fallait que ça cesse, ça. Mmh. Parce que la dernière chose terrible entraînée par cette action, ces promotions fausses de... Lasnek, c'est que le maire du village s'est suicidé parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait d'abord investi l'argent de la commune, pas seulement le sien, mais l'argent de la commune, et donc là ça laisse savoir, et il se suicide. Et comme il était ami avec ce maire, donc là c'était le facteur déclenchant, et là il dit qu'il faut que le mal cesse. Même si l'autre avait des bons côtés. Je pense que c'est là qu'un jour, prenant le bateau, enfin, etc., je vous laisse raconter la suite, il arrive à l'acte
final. Mais moi, j'ai eu cette indulgence à l'égard de Kermer, c'est-à-dire de...
Ben oui,
je l'excuse tout à fait.
Je le comprends, voilà.
Mais justement, ça ne suffit pas, ça continue à me poser la question. Bon, d'accord, je reconnais toutes les circonstances atténuantes du monde, mais il a attrapé les deux pieds de Lasnek et il l'a balancé par-dessus bord. Ouais. Même s'il ne l'a pas prémédité, puisque, grosso modo, dans l'histoire, ils viennent de remonter un casier à homard et Lasnek a pêché le premier homard de sa vie et a le toupé de dire à ce pauvre Kermer qu'il a escroqué de 510 000 euros ou francs, enfin je ne sais plus. C'est mon premier homard, je te l'offre. Et d'ailleurs, il le dit, je ne sais pas si c'est ça qui a été le facteur déclenchant. Voilà, mais reste le problème. le mal, c'est quand même le crime.
Et oui, mais on peut supposer, comme Bernard, tu l'as dit, qu'il sera jugé de toute façon, qu'un procès aura lieu. Et donc, il purgera une peine de prison, malgré tout. Il n'a peut-être pas été condamné au maximum pour ce qu'il avait fait, vu les circonstances atténuantes, mais il paiera, d'une certaine façon.
Oui, mais là, on sort de l'histoire.
Hein. Ah ben, à nous l'imaginer.
Oui, mais justement...
suite éventuelle.
Il me semble que, pour le lecteur, la façon dont l'histoire est menée, le lecteur n'a qu'un choix, enfin, n'a que le choix de l'indulgence.
De l'indulgence, oui. Alors, on ne sait pas ce que fera ce juge d'instruction, parce que lui, n'a, si j'ai bien compris, Bernard, toi qui as des notions juridiques, ce juge d'instruction n'a qu'à instruire, il n'a pas donné de verdict.
Ah bah, il instruit à charge et à décharge, comme tout juge d'instruction. Le procureur, au nom du ministère public, après crime, puisque, enfin, au moins après disparition de Lansdecq, a porté plainte au nom du ministère public, n'a certainement pas lâché l'affaire comme ça. Quoi. Donc, il y aura une instruction à charge et décharge qui sera livrée au tribunal, au juré notamment, mais il y aura certainement procès. De toute façon, il y a au moins un chef d'inculpation, et d'ailleurs il est évoqué dans l'histoire, c'est qu'il est revenu seul dans le bateau, il n'a rien dit, il y a au moins un nom d'assistance à personne en danger. Quand on part à deux sur un bateau et qu'on revient seul et qu'on ne dit rien, on est coupable, enfin on est poursuivi par la justice de toute façon.
Donc l'histoire ne s'arrêtera pas là. Je ne voudrais pas vous choquer, mais à l'heure actuelle, quand un illuminé tire sur la foule ou prend son couteau, on trouve tout à fait normal que la police présente le tue sans procès. Donc finalement, ce Kermer avait des tas de bonnes raisons de le fiche, enfin d'arrêter qu'il cesse de faire le mal. Donc c'est, à mon avis, c'est pas pire que de tuer les assassins, ceux qui vont au Bataclan, vous voyez pas, il faut éliminer le mal. Et donc dans notre société, ça on le comprend très bien, et on a beaucoup plus de difficultés à admettre les bonnes raisons d'un type qui n'était pas fait pour être un tueur et qui arrive...
En tout cas, qui n'a pas tué idéologiquement.
Oui, c'est ça.
Non, mais voyons, on a des idées très...
Consommer le terrorisme.
C'est pas mal, par les temps qui courent, justement, de réfléchir à ça. Voilà.
C'est fini. Je reviens sur ce que tu disais, Jean, à propos de la complexité de Lansdegg, du promoteur, qui est évoquée, mais pas suffisamment fouillée. Moi aussi, j'aurais souhaité que le personnage soit aussi traité à charge et décharge, le promoteur, et que les aspects plus sympathiques, disons, enfin plus acceptables du personnage du promoteur nous soient décrits davantage et qu'il y ait un peu moins de manichéisme dans la façon dont est traité le... Parce qu'après tout, il s'appelle Lansdegg, il ne s'appelle pas Rastapopoulos. On imagine que c'est un breton parmi d'autres,
un
breton qui a réussi d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'ils lui ont fait confiance au début.
Il doit y avoir aussi des escrocs parmi les Bretons.
Bah, évidemment, évidemment.
Même si
évidemment.
J'ai trouvé ça, puisque j'ai vécu longtemps en Bretagne, j'ai trouvé ça très rigolo de dire que ce Lansdegg, il les surprend parce qu'il embrasse les gens. Vous vous rendez compte, en Bretagne, ça ne se fait pas, évidemment, de s'embrasser comme on le fait nous autres dans le midi. Et donc, il fait cette distinction.
Il y a d'ailleurs, à un moment donné, une remarque sur le Sud. Oui. Il y a des choses qui se passent dans le Sud et qui ne se passent pas, en principe, en Bretagne.
Voilà, c'est un breton contaminé.
Moi, je ne lui trouve quand même pas beaucoup d'aspects sympathiques, parce que finalement, même quand il amène Erwan au match
c'est
de foot,
calcul,
oui, c'est par calcul, et puis il l'isole de son père. Enfin, il le lui vole en quelque sorte. Donc, les aspects sympathiques du personnage ne m'ont pas forcément marqué.
Ça, c'est parce que justement, on est orienté. Hein. Ouais. Il faut qu'il soit vraiment très antipathique.
Bien.
Ben, je crois que on pourrait en parler beaucoup de ce roman. Mais enfin, donc, puisque moi je fais partie de ceux qui l'ont beaucoup aimé, je vous incite très vivement à le lire. Alors, on a peut-être quelques annonces de confluence à faire avant de.
Donc, le prochain cercle de lecture aura lieu le jeudi 14 juin à 14h15 à la Petite Comédie. Et nous parlerons de La Piste Mongole de Christian Garcin.
Et on vous rappelle que ce cercle de lecture de Confluence est ouvert à tous. Alors autrement, il y a quelques autres annonces sur les activités de Confluence. Jeudi 17, c'est la clôture de cette action menée auprès des collégiens et des lycéens pendant toute l'année qui s'appelle Une année de vive voix. Donc il y aura une transmission publique en quelque sorte, jeudi prochain. Une restitution, voilà, je cherchais le mot, au Conseil Général. Je vous rappelle aussi la venue de Mouloud Akouche, qui est venu se présenter en quelque sorte à Confluence et qui est extrêmement sympathique et qui va rester pendant tout le mois à Montauban, par mots et par mots, Montauban par mots et par mots, avec des ateliers de rencontres. Une plaquette a été éditée pour ces ateliers de rencontres, vous pouvez vous la procurer pour avoir toutes les heures. Il va faire des ateliers d'écriture, enfin il va y avoir beaucoup de choses. Tu voulais ajouter, Jean ?
Oui, je voulais ajouter que si on veut donc prendre connaissance de l'œuvre de cet auteur, on peut lire un livre qui s'intitule « Code barre ».
Oui.
Qui est intéressant, justement. Enfin,
oui, et en plus, ce sont des petites nouvelles. Enfin, oui, c'est une nouvelle. Oui,
c'est un tout petit texte, mais...
4 euros, bon. C'est pas la mer à boire.
Alors, il parle de problèmes de société.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu le genre de ce livre-là, c'est-à-dire qu'il parle aussi d'un problème de société et d'injustice dans la société.
Voilà. Et autrement, il a écrit pas mal de choses, des romans policiers, Mouloud Akouche, et puis il dit que la chose qu'il aime le plus, c'est écrire des pièces de théâtre radiophoniques, enfin pour être diffusées. Bon, voilà, je crois que j'ai tout dit sur... Oui. Sur les dernières annonces de Confluence. Et je propose de terminer en bretonnerie et en chanson avec Alain Souchon qui chante le Bagad de l'Anne Biwé.
Voilà, nous vous disons au revoir et au mois prochain.
Comme ça ta vie, pas d'attaché caisse quand t'étais petit, ton corps enfermé, costume crétin, t'imaginais pas, je sais bien, moi aussi j'en ai rêvé des rêves, tant pis, tu la voyais grande et c'est une toute petite vie, tu la voyais pas comme ça l'histoire, toi t'étais tempête et rocher noir, mais qui t'a cassé ta boule de cristal, cassé tes envies rendues banales, tes moches en moustache, en LED sandales, tes cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça, frérot. Doucement, ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Et ce rêve-là, on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau.
C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau.
Tambour binaire et premier sabot.
C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau.
Dansant Quimper ou Landerneau,
c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau.
Soufflant tonnerre dans du roseau,
c'est pas toi qui es.
Dans le Bagad de l'Anne Biwé. Tu la voyais pas comme ça ta vie, tapio capotage et salsifis. On va tous pareil, moyen, moyen, la grande aventure Tintin. Moi aussi j'en ai rêvé des cornemuses. Terminé maintenant, dis-moi qu'est-ce qui t'amuse. Tu la voyais pas ici l'histoire, tu l'aurais bien faite au bout de la loi. Mais qui t'a rangé à plat dans ce tiroir, comme un espadon dans une baignoire. T'es moche en week-end, tes mioches qui traînent, loupé capitaine, bateau de semaine, d'une drôle de fête foraine. Tu la voyais pas comme ça, frérot, doucement ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais, et ce rêve-là on l'a tous fait. Dentelle première et
premier chapeau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Tambour binaire et premier sabot. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Dansant quimper roulant d'Erno. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Soufflant tonnerre dans du roseau. C'est pas toi qui es.